Dans cette salle aujourd'hui, il y a beaucoup d'aidants de malades atteints de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer qui est une maladie de famille entière, ça a été dit en introduction. Vous devez soutenir au quotidien votre proche malade avec un risque, celui du burn-out. Comment prévenir ce risque? Comment s'en protéger? Le docteur Olivier de la Doucette va nous parler de ce sujet dès à présent.
Oui, alors, d'abord, je voulais remercier le docteur Zarea et le professeur Dumurgier parce que je crois qu'ils ont su nous dire en termes assez simples des choses relativement compliquées et plutôt, au fond, encourageantes. Je crois que depuis que je m'intéresse à la recherche, c'est-à-dire 20 ans, notre fondation a 20 ans maintenant, on a évolué pendant très longtemps un peu dans les ténèbres et là, je crois qu'on commence à voir vraiment des lumières au fond du tunnel avec la possibilité de s'en approcher et de toucher du doigt des traitements réellement efficaces. Alors j'aimerais vous rappeler une petite anecdote, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. La fondation, l'association France Alzheimer nous avait proposé il y a une quinzaine d'années une campagne de publicité que je trouvais très élégante et assez émouvante. On voyait une petite gamine, elle devait avoir 12-15 ans, avec la larme à l'œil, et on disait cette personne ou cet enfant ou cette adolescente est victime de la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment ça choquait un peu, mais en réalité c'était là pour nous indiquer que la maladie d'Alzheimer, comme je le disais en préambule, c'est pas simplement la maladie d'un individu mais aussi la maladie d'une famille. Tout à l'heure, on avait un peu esquissé les chiffres qui étaient issus de cette enquête que nous avons faite. Et on sait que dans ce pays, il y existe à peu près 5 millions d'aidants, sachant qu'il y a à peu près 1 200 000 malades. On peut considérer qu'il y a entre 3 et 4 personnes qui gravitent autour de chacun de ces malades pour s'en occuper au quotidien. 5 millions d'aidants, c'est 8% de la population française. Ça commence à faire un peu de monde. Alors, ces aidants, on les a regardés d'un peu plus près et on a vu que voilà, c'était 44% de familles, un certain nombre de professionnels aussi. Et on a une personne sur 6 ou 7 qui est toute seule et qui vit chez elle seule, 16%. Les aidants familiaux, c'est également des gens qui ont pour la plupart moins de 60 ans. C'est très classiquement ce qu'on appelle la génération sandwich, où madame doit s'occuper de sa mère très âgée et de sa fille qui termine ses études. Et c'est compliqué, elle fait le grand écart avec son travail et accessoirement son mari, donc ça finit par faire des journées un peu longues. Quelles sont les motivations des aidants? C'est naturel, ça c'est plutôt bon signe. Par devoir, il y en a de moins en moins, mais ça existe encore. Et parfois c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, il y a l'amour, heureusement, qui est là aussi. Mais ces motivations, vous allez voir, sont quand même parfois un peu érodées par la difficulté du quotidien. Durée hebdomadaire passée avec le proche aidé, vous voyez que 40% passent plus de... Non, 60% passent plus de 5 heures auprès de leur 5 heures par semaine auprès de leurs proches. Et 16% de plus de 20 heures par semaine. Donc ça fait quand même beaucoup de temps consacré, beaucoup d'efforts. L'impact, il est très important. Il est surtout important au niveau du moral. Et c'est pour ça qu'on va parler du burn-out. Vous voyez, ça agit sur la famille, ça agit sur la situation financière, ça coûte très cher. Également de s'occuper d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Le sommeil, la forme physique, enfin ça nous impacte à tous les niveaux dès lors qu'on est aidant. Alors pourquoi est-ce que les aidants sont en danger? Pourquoi est-ce qu'on parle de burn-out? Moi, ça fait à peu près 30 ans que je suis des malades d'Alzheimer en tant que psychiatre et gériatre. On n'est malheureusement pas très nombreux dans cette spécialité. Et c'est dommage parce que Alzheimer, si on est neurologue, on dit que c'est une maladie neurologique, voilà, avec des troubles du comportement. Quand on est psychiatre, on peut dire que c'est une maladie mentale d'origine neurologique. Bon. Mais on a raison dans les deux cas. Mais il est vrai que les troubles du comportement, les difficultés que l'on rencontre au quotidien sont réellement là. Et je me souviens, il y a 25 ans, je lisais des articles sur le burn-out des aidants. C'était souvent des articles qui venaient d'Europe, d'Amérique du Nord, les Canadiens, mais aussi les Américains. On parlait du burn-out. Et le burn-out, c'est burn-out en anglais, ça veut dire se consumer. C'est donc un terme qui désigne l'aidant qui se consume de l'intérieur, physiquement et psychologiquement, au contact d'un proche atteint de maladie d'Alzheimer. Mais le burn-out, à l'époque, dans le milieu du travail, c'était pas un sujet qu'on connaissait très bien. Et aujourd'hui, tout le monde connaît le burn-out, essentiellement dans le monde du travail, mais je peux vous dire qu'en tant qu'aidant, c'est une réalité. Et pourquoi est-ce que les aidants sont en danger? Mais voilà, parce que là, on a toute une série d'éléments qui sont au fond la cause ou la conséquence de la diapositive précédente. Hein, la charge qui est lourde, une maladie qui évolue de manière inexorable, sans aucune perspective positive, une absence de répit. Hein, où on est aidant jour et nuit et on est toujours sur ses gardes. On a toujours peur d'une catastrophe, souvent, si on est éloigné. Difficulté à déléguer, ça c'est un vrai sujet que je rencontre avec les conjoints notamment, qui ont du mal à accepter de déléguer parce qu'ils sont encore dans une posture où ils veulent être parfaits, le conjoint parfait, et les enfants parfois ont du mal à comprendre ça. La tendance à l'isolement parce que Alzheimer fait peur, fait un peu honte, et parfois ça crée un peu d'éloignement de la part des proches. On se sent un peu pris au piège, et puis c'est compliqué sur le plan financier, ça c'est tout à fait évident. Alors les trois signes qui doivent alerter, et qui donc sont des signes, on va dire, précurseurs d'un éventuel burn-out. C'est d'abord l'état de fatigue intense et chronique. Hein, la fatigue, elle peut être psychologique. On sent, on n'a plus envie de rien, on est démobilisé, démotivé. On est fatigué du matin au soir, même après une longue nuit. Ça peut être une fatigue intellectuelle, on n'arrive plus à se concentrer, on a des troubles de la mémoire. Et puis ça peut également être une fatigue physique. Donc c'est l'un des trois, ou les trois, ou deux sur trois. Mais on est fatigué, et on le dit à ses proches, je suis fatigué. Ou c'est les proches qui disent, maman, tu m'as l'air bien fatiguée, maman étant l'épouse du malade d'Alzheimer. Et puis, associé à cette fatigue, on voit un détachement, un désinvestissement. Ce qu'on appelle dans notre jargon une anesthésie affective. On se sent moins concerné. On a un petit-fils qui vient de naître, il y a un baptême, il y a une bonne nouvelle scolaire. Et oui, bon, ok, très bien, on est un peu moins concerné. Les enfants disent, c'est marrant, papa ou maman sont un peu indifférents à nos problèmes, que se passe-t-il? C'est parce qu'on est totalement saturé. Et puis, on se sent parfois un petit peu aussi moins motivé pour s'occuper des choses. Il y a une espèce de mécanisme de déresponsabilisation. Associé donc à ces deux grands phénomènes psychologiques, on voit également une tendance à l'autodépréciation. Donc le malade, enfin l'aidant qui est près du burn-out est rarement quelqu'un de très enthousiaste et très positif. Il est plutôt découragé, il a l'impression de ne pas être utile, de ne pas y arriver. Il pense que voilà, sa vie est finie avec celle de son conjoint. Donc si on ressent ça, il faut être attentif. Et si vous le voyez chez vos proches concernés par cette maladie, il faut aussi y être attentif. Quelles sont les conséquences du burn-out ? Les conséquences sont importantes, elles peuvent être dévastatrices. On estime que à peu près un conjoint sur deux d'un malade Alzheimer décède avant le malade. Donc vous voyez les conséquences, elles peuvent être tout à fait dramatiques. Et donc les conséquences de ce que je viens de vous dire vont avoir un impact immédiat sur la relation aidant-aidé, ça c'est clair. Et c'est du reste, pour aller un peu plus loin, dans la notion de maltraitance, qui est un vrai sujet, la maltraitance des sujets âgés. En France, on estime qu'à peu près 10% des personnes âgées sont maltraitées. 80% de ces gens maltraités le sont à domicile, donc c'est beaucoup moins en institution, comme on veut bien le croire, qu'à domicile. C'est un peu une omerta. Et parmi ces gens maltraités à domicile, je pense qu'à peu près 50% ont des pathologies neurodégénératives. Et donc, du fait du burn-out des aidants, les aidants deviennent un peu, malgré eux, maltraitants. Et puis aussi, ça peut être les patients eux-mêmes qui, de par leur comportement, finissent par générer une espèce de violence généralisée. Mais l'un comme l'autre, il faut donc être très conscient que cette relation entre l'aidant et l'aidé se dégrade dès lors qu'il y a un problème d'épuisement sous-jacent. Et puis, ce burn-out génère aussi des problèmes de santé majeurs chez l'aidant qui tombe malade à un moment ou à un autre. Or, ce couple aidant-aidé est indissociable, surtout lorsqu'ils sont en couple. Et on voit très bien, très clairement, les professionnels dans cette salle vont acquiescer comme moi, au fait que l'état de santé de l'un est directement lié à l'état de santé de l'autre. Et que si l'aidant est malade, l'aidé n'ira pas bien. Si l'aidant est déprimé, l'aidé n'ira pas bien. Donc il faut évidemment soigner les deux comme on peut, mais il faut être attentif aux deux. Comment faire face au burn-out ? Alors, c'est pas simple. C'est pas simple. Reconnaître son état, ça paraît évident, et en réalité, dans les faits, c'est loin d'être simple. Et là, ce sont des histoires que je rencontre fréquemment en consultation d'enfants qui viennent me voir en me disant « on ne sait pas comment gérer nos parents ». Papa a un Alzheimer épuisant pour maman, on dit à maman qu'elle ne va pas bien, on dit à maman qu'elle se fatigue, on lui propose de l'aide et elle ne veut rien entendre. Elle ne veut pas se faire aider, elle ne veut pas l'introduction d'une tierce personne à domicile, elle ne veut pas admettre que c'est compliqué, elle est encore dans une espèce de posture d'épouse idéale, enfin, etc., etc. Elle a peur que elle baisse la garde, à ce moment-là, elle perdra le contrôle. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce comportement, mais qui est un peu paradoxal, mais qui est très fréquent dans le cas de la maladie d'Alzheimer, où l'aidant a du mal à se faire aider. L'aidant a du mal à accepter son état, a du mal à accepter son épuisement. Donc, il faut savoir reconnaître son état, si on est soi-même aidant, ou arriver à le faire comprendre aux proches ou à l'aidant, si on est proche de cette personne, pour qu'elle puisse consulter un professionnel et puis éventuellement organiser une réunion de famille pour pouvoir mettre à plat les problèmes. C'est ce que moi je fais dans mon cabinet, où je fais venir, quand je vois qu'il y a un problème, les enfants avec le parent qui est l'aidant, et on discute. Et les enfants peuvent, dans un terrain neutre, dire les choses à leur mère. où leur mère peut dire des choses aux enfants aussi. Parfois, c'est l'inverse, où la mère dit « mais moi, je suis toute seule, vous êtes là et vous ne faites rien pour moi, je me sens très isolée ». Voilà, donc on rencontre tous les cas de figure, mais il faut en tout cas faire passer, circuler la parole et ne pas hésiter à organiser des réunions de famille. Ensuite, il faut aussi, une fois qu'on a reconnu qu'on n'était pas bien, essayer d'être un peu préventif. Être préventif, c'est accepter ses limites. Et là encore, ce n'est pas très simple pour les aidants, parfois, d'accepter ses limites, parce qu'on se sent coupable. On se sent coupable d'aller bien quand le proche va mal. On se sent coupable parce qu'on a peut-être... dans le cas de certains maris, mais peut-être certaines épouses, je ne veux pas avoir qu'on me reproche d'être sexiste, mais qui n'a pas toujours été très fidèle à sa femme et qui la voit comme ça déclinant, eh bien, il veut se rattraper et il va se sentir coupable, donc il va en faire trop. Et parfois, donc, pour nous, en tant que professionnels, je vous donne un exemple, mais il peut y en avoir plein. Ça peut être aussi une fille qui a le sentiment de ne pas avoir été aimée comme il fallait de ses parents et qui a surinvesti la prise en charge de sa mère ou de son père au détriment de sa famille ou de sa santé ou de son travail. Eh bien, il faut pouvoir comprendre ce qui est derrière. Il faut pouvoir analyser l'historique de cette relation entre l'aidant et l'aidé pour... comprendre les mécanismes d'une éventuelle culpabilité. Il faut également comprendre comment le deuil du soignant idéal peut être, on va dire, compris, métabolisé, parce que là encore, c'est toujours un peu la même logique. Je veux être l'épouse idéale parce que j'étais élevé comme ça ou pour d'autres raisons. Et donc, on a du mal... à lâcher prise, à passer le relais à un professionnel, par exemple. Et puis, parfois aussi, on est devenu un peu dépendant de la dépendance de son proche. C'est quelque chose où, finalement, on a organisé sa vie complètement autour du proche. Ça peut même être une espèce de forme de valorisation, où on devient... la merveilleuse épouse du malade et tout le monde vous fait des compliments alors qu'avant on n'existait pas. Et à ce moment-là, oui, mais ça peut être au détriment de la santé. Donc tout ça existe, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça demande une analyse un petit peu fine, ça demande une approche qui prend du temps. Il faut, quand on est des professionnels, eh bien, essayer de décortiquer toutes ces situations, essayer d'aller creuser un petit peu dans l'histoire de la famille, la dynamique du groupe, la dynamique du couple, comment on peut arriver à faire comprendre à l'aidant qu'il est temps de lâcher prise, de se faire aider. Et comment est-ce qu'on se fait aider ? Eh bien, on peut se faire aider par un certain nombre de dispositifs qui sont aujourd'hui en développement. Je pense qu'encore une fois, depuis que je m'intéresse à cette pathologie, j'ai vu évoluer quand même les prises en charge, j'ai vu évoluer les mentalités et les structures d'aide, qui sont aujourd'hui quand même assez développées. On peut faire mieux, c'est évident, mais il existe quand même maintenant un certain nombre de structures aussi bien à domicile, on voit des grandes enseignes qui se développent et qui proposent des aides avec du personnel plus ou moins qualifié. Bon, la qualification du personnel, pour moi, n'est pas essentielle. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir des dames ou des hommes qui ont un peu l'intelligence de la relation et un peu d'empathie, et après, ils apprennent au fil de l'eau, le plus souvent, sauf si ce sont des prises en charge très compliquées. Mais on a aussi donc des professionnels, il faut faire appel aux neurologues, aux gériatres, aux psychiatres, quand il y en a, qui peuvent vous proposer des aides, qui peuvent essayer d'atténuer un peu les troubles du comportement du patient, quand il y en a. Après, vous avez des structures de répit, et les accueils de jour, c'est très intéressant, quand c'est accepté par le patient, quand ce n'est pas trop compliqué à monter. Séjour de répit, il ne faut pas oublier cette possibilité qui est très utile parfois, notamment en été. on peut, dans certains EHPAD, eh bien, placer un proche pour 3 semaines, 1 mois. Moi, je ne conseille pas moins, parce qu'il lui faut un peu le temps pour s'adapter en général. Et puis, même pour le conjoint, l'aidant, pour se reposer, il lui faut au moins 15 jours, 3 semaines pour que ça soit utile. Le baluchonnage, ça, c'est un truc assez sympa, compliqué, qui reste un peu confidentiel, mais qui va se développer, qui nous vient du Canada. Le principe, c'est qu'au lieu que le patient quitte le domicile pour que l'aidant puisse se reposer, le patient reste chez lui. C'est l'aidant qui s'en va chez un proche à l'hôtel faire un voyage, et c'est le professionnel qui rentre dans le domicile du patient et qui se substitue à l'aidant pendant quelques jours ou quelques semaines. Donc ça, c'est très intéressant aussi, je sais. J'ai mon petit chronomètre, je vais terminer rapidement. Ces jours de vacances, ça arrive, ça c'est des choses qui sont très sympas. Et France Alzheimer, par exemple, le propose, où on part en couple, où monsieur ou madame est malade et l'autre conjoint va bien, et il peut se reposer, se dorer la pilule pendant qu'on s'occupe de son conjoint, donc c'est très bien. Et puis, il y a des actions de resocialisation qui existent aussi, enfin voilà. Et puis, formation des aidants, c'est aussi important. Nous, ce matin, on a proposé un certain nombre de professionnels, justement, une formation pour apprendre à, mais c'est surtout des gens qui travaillent en EHPAD, pour apprendre à gérer les patients avec des troubles du comportement dans le cadre d'une maladie neurodégénérative. Mais on peut également, en tant qu'aidant, être formé, parce qu'il y a un vrai langage, il y a une vraie compréhension de la relation, de la dynamique relationnelle entre le malade et ses proches, qui n'est pas toujours évidente et qui peut, une fois qu'elle est acquise, une fois qu'on a intégré un certain nombre de données, vont vraiment faciliter la relation et apaiser les choses très nettement.